Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 22 juin et vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mock. Et nous continuons toujours notre chronique judiciaire aux États-Unis parce que c'est intéressant. C'est l'actualité. Le procès de M. Trump a été fixé, le début du procès, il faut dire, au 14 août, c'est bientôt, et déjà les spécialistes, certains spécialistes pensent que c'est trop tôt et que compte tenu de toutes, des codes de procédure qui président à ce genre d'affaires, les délais sont trop courts. Bon, en fait, pour rigoler un peu, hein, disons que... rien que le fait que Hunter Biden a été, libéré, je ne sais pas si c'est libéré, mais il n'a pas été reconnu, enfin il a plaidé non coupable, à toutes les accusations. Le fait qu'il n'y ait pas eu de condamnation pour lui, ça veut dire automatiquement qu'il n'y en aura pas pour M. Trump, bien sûr, parce que Hunter Biden quand même, le fils de M. Biden, est accusé de fraude fiscale pour un montant de, je crois, 2 millions de dollars. Il est accusé... il a été pris déjà plusieurs fois en possession de drogue, ce qui vaut, si c'était un noir, il serait en prison directement. Il a été impliqué dans une affaire d'achat d'armes illégales, enfin d'une arme illégale, parce qu'en fait, en principe, lorsque vous avez été pris en possession de la drogue, vous êtes considéré comme quelqu'un d'instable et donc potentiellement, après, vous ne devriez pas acheter une arme. Donc, s'il en a acheté une, c'est probablement qu'il a utilisé des méthodes... douteuse. Mais bon, lui, c'est le fils du président Biden, il lui arrive rien. Il suffit qu'il plaide coupable et puis après, la justice s'arrange pour trouver un terrain d'entente. Je ne sais pas lequel. Bon, c'est la justice, ce sont ses procédures. Vous déclarez je suis coupable, mais à culpa, et puis c'est fini. Ah, c'est trop facile parce que, à côté de ça, on a quand même déjà de plus en plus, pas de preuves, mais des évidences qu'il y ait eu des trafics d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui a transité par les comptes de la famille Biden, donc qui prête à penser quand même qu'il y a beaucoup de corruption de ce côté-là. Et puis bon, il n'y a ni mise en examen, il n'y a rien. Il y aura peut-être une procédure d'impeachment, mais connaissant les tactiques politiques, les sénateurs démocrates, la majorité démocrate au Sénat ne va pas laisser tomber Biden parce qu'il n'en porte chose, hein, Madame Harris, elle est très fragile. Et pour les démocrates aussi, à un an des élections, laisser tomber le président, ça ne sera pas bien pour eux aussi. Ils ont une carrière en jeu, donc l'impeachment ne peut pas marcher. C'est dommage parce que les gens votent comme leurs pieds. Au moment du vote, les démocrates se sont focalisés parce que c'est vrai, Carl Tucson a dit que Les démocrates n'avaient, ils avaient probablement un problème de défaillance, de dégradation politique, mais c'était surtout pour lui, il voyait l'idéologie. Ah, des questions idéologiques. C'est vrai que l'idéologie, ça vous ramène à tout ce qui est rigidité psychologique, parce que vous croyez à ce que vous croyez, vous ne voulez pas qu'on vous dise le contraire, notamment que si on a dit finalement que l'avortement était interdit, ce n'était pas la fin du monde et que ce n'est pas ça qui faisait en sorte que on se ruait pour voter démocrate aux dernières élections législatives. Et voilà, les Américains sont un peu comme les Français, coincés avec leur façon de voter. Ils votent Monsieur Macron et après ils se plaignent de quoi? Faut pas se plaindre après, faut assumer. Vous saviez très bien, donc l'Amérique est un peu empêtrée dans cette histoire. Ce serait une histoire très simple, la corruption de Joe Biden, si les deux chambres étaient comme elles devaient l'être, républicaines. Mais bon, la justice est corrompue depuis. Là, ça s'est vu, il fallait qu'il fasse cette loi-là à ce moment-là, la fameuse loi qui revient sur l'avortement. Et ça, c'était du cousu main parce que maintenant on voit très bien tout ce qui se passe au niveau de M. Trump et on voit que la justice s'est achetée depuis longtemps. Donc, les juges sont très ambigus, c'est le moins qu'on puisse dire pour ne pas dire le reste. Et de toute façon, la dernière fois, on a évoqué la franc-maçonnerie. À partir du moment où vous appartenez à un ordre qui est supérieur à l'ordre démocratique, il est évident que c'est cet ordre-là, que c'est l'agenda de cet ordre-là que vous suivez. Et donc, potentiellement, si les juges, les politiques, les artistes, mais laissons tomber, arrêtons-nous au milieu politique, au microcosme politique ou médiatico-politique, comme disait le feu Raymond Barre, Premier ministre, dès lors que ces gens appartiennent au World Economic Forum, à Davos, ou à la franc-maçonnerie, ben, il est évident qu'ils établissent un agenda à ce niveau-là. Et c'est cet agenda qui prime, même un juge, il ne peut pas dire, il ne peut pas faire le contraire de la loi républicaine. Vous vous rendez compte? Donc, tout ce qui se passe là, c'est contre la République, c'est contre la démocratie. Et tout le monde l'a vu, hein, une justice à deux vitesses, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est le comble même du ridicule, mais l'Amérique n'est plus au ridicule près. Hein. L'agenda franc-maçon, l'agenda supra. National, on va dire comme ça, parce que l'agenda globaliste hein, prévaut et puis advienne que pourra. Hein. Donc, M. Trump, il a eu tous les malheurs qu'il a eu, ben, personne n'est venu à son secours, notamment depuis 2016 qu'il est élu, qu'il y a eu ce faux rapport l'accusant de complicité, de collusion avec la Russie. Il est allé de persécution en persécution et la justice regardait et tout le monde regardait. Alors, maintenant qu'on dit qu'il est accusé d'avoir fait obstruction à la justice, et d'ailleurs, il faut voir qui parle de la justice, mais on va passer là-dessus. Il a accusé, donc obstruction à la justice, il y a quelque chose qui s'appelle les Presidential Act. Donc c'est un acte, ce sont des actes qui ont été adoptés en 1978 et qui accordent au président en exercice, comment j'allais dire, comment on peut le faire du prince, hein? Toute autorité sur les documents. C'est un peu ça, qui sont administratifs, qui de la Maison Blanche. Il a autorité totale. Il en fait ce qu'il veut durant son mandat. C'est vraiment le fait du prince. Et ça aussi, c'est parce que on essaie de protéger le président contre. C'est une immunité. Hein. Et on le protège aussi contre l'espionnage acte qui a été acté bien auparavant et qui fait que le président, pendant l'exercice de son mandat, ne peut pas être accusé d'espionnage. Ce sont les présidential acts qui mettent cela en pratique et en place. Donc le président est souverain dans sa décision et il n'y a personne qui peut contester. Il dispose des documents comme il veut, ce qui est normal parce qu'il faut qu'il préside. Et à la fin de son mandat, c'est là où le problème arrive, il doit restituer les documents, ou plutôt c'est le service des archives nationales, les archives, on va dire comme ça, qui prend possession légalement de ces documents de la présidence. Et le président, théoriquement, surtout ceux qui sont classés, documents classifiés, comme ils disent, doivent être, ces documents-là sont impérativement transmis au service des archives. Et puis, qui mettra tout cela à la disposition du président entrant. Sauf que M. Trump, donc, a pris les documents, comme tous les présidents prennent les documents. Et le Service national des archives lui a demandé les documents. Et il les a pas passés. Enfin, il a passé quelques-uns, il n'a pas tout passé. Parce que je ne sais pas comment, mais là, le Service national des archives aussi, enfin, ou plutôt le président qui vient après, se rend probablement compte qu'il manque des documents, je ne sais pas trop. Donc c'est Biden qui envoie le FBI aller faire ce raid-là pour récupérer le reste des documents, parce que probablement, pas probablement, mais sûrement qu'il y a une trace des documents qui sont entrés, qui existent, et ceux qui manquent. Donc c'était facile, on fait une confrontation, hein, enfin on fait une forme de. J'ai oublié le mot, mais. On regarde ce qu'il y a aux archives, on regarde ce qui manque à la Maison Blanche, et on sait très bien ce qui manque, et on va faire le raid. On récupère les documents, on les ramène, et normalement ça peut s'arrêter là, mais ça s'arrête pas là parce qu'apparemment ils demandent ces documents, ils réclament, le Service national des archives réclame ces documents depuis un moment, et M. Trump ne passe pas les documents. Donc obstruction à la justice, bien qu'on ait pris les justices, et surtout. On prend pour prétexte rétention d'articles classifiés, donc classés top secret. Bon, dans l'absolu, on peut dire que oui, M. Trump aussi devait rendre des documents. Ben bon, ils les ont pris, hein, ils les ont pris, bon, je vois plus le problème, mais il faut donc punir pour punir, parce ils ont déjà tous les documents, il n'y a plus de souci, mais sauf que. Sauf que ils sont pas contents d'une chose, parce que dans ces documents-là, il y avait notamment un document sur le plan d'attaque de l'Iran, dont l'Amérique a prévu de faire ce qu'elle fait en Ukraine, en Iran. Et ça, ce document-là, il fallait absolument que le service national et M. Biden, le service national des archives et M. Biden reprennent possession de ce document de façon. Alors là, ça devient un enjeu vital et pour le renseignement aussi. Vous voyez, vous vous rendez compte. Donc, ils poursuivent Trump uniquement et principalement pour ce document sur l'attaque qu'ils ont prévue sur l'Iran. Et Trump aussi, il était trop content de prendre certains documents qui compromettants pour la diplomatie et le complexe qu'on appelle industriel, militaro-industriel, qui prévoit certainement des guerres futures, conformément à l'agenda du World Economic Forum, qui est très vaste, liquidation des gens, diminution de la population, ça c'est capital. Et on l'a vu avec le Covid. Lequel Covid crée des problèmes en ce moment au candidat Kennedy, je crois que c'est Robert, hein, candidat démocrate. C'est le Sanders, hein, c'est le Sanders qui avait contre Clinton. Juste un flashback que je fais, Sanders, il gagnait toutes les primaires, et puis à la fin, il gagne plus rien parce que la Silicon Valley a commencé à trafiquer les résultats. Et ce qu'on a donc vu avec Biden-Trump après, c'est depuis que Google et tout le reste font ce genre de trafic avec les votes des gens. Donc en ce moment, c'est la même chose. Kennedy est là et il a pris beaucoup de force avec tout ce qui a été fait contre le Covid. Enfin, contre le Covid, avec le Covid et contre les analyses crédibles, Kennedy annonce donc que lui, quand c'est le président, il y aura une investigation, y compris sur les magazines scientifiques, parce qu'il ne publiait que les articles qui allaient en faveur du politicien et pas ceux qui allaient en faveur des experts indépendants. Par exemple, il y a eu un membre de l'administration Biden qui a été interrogé, je crois, à la House, et puis la dame lui demande, on va dire, la députée lui demande, mais monsieur, madame, où est-ce que vous avez fait vos études de médecine? Ah, nulle part. Ah, qu'est-ce qui vous donne donc le droit de contredire un médecin lorsqu'il met en place un protocole. Elle est partie dans une réponse, mais la question, où avez-vous fait vos études de médecine? Ça s'applique à Macron. Il était médecin depuis quand il a emmerdé monsieur le docteur Raoul pendant des mois. C'est le politique qui a tout pris en charge pour décider avec des experts. Oui, mais ceux qui ont fait médecine n'ont jamais eu droit à la parole. Ils deviennent des exécutants, mais c'est le monde à l'envers. Bon, Kennedy, il promet ça, donc du coup, il commence à être censuré un peu de partout. Et je crains que le sort de Sanders ne lui pas en donner, mais lui, il a des arguments en plus. Et il a aussi une indépendance de langage et de position qui lui permet quand même vraiment, vraiment de mettre Joe Biden très, très, très en difficulté. Et je vais voir comment ils vont faire, parce qu'ils ne feront peut-être pas des primaires, mais Kennedy sera candidat et on verra le résultat de Biden. Donc Biden, en ce moment, il est pris, hein, d'un côté en tenaille par Monsieur Trump d'un côté et Kennedy de l'autre. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Mais on verra si la fraude ira jusque-là. Pour revenir au procès de Monsieur Trump, on sait très bien qu'il a les documents compromettants qui rendent le FBI, qui les empêchent de dormir. Et c'est à dessein que M. Trump aussi l'a fait. Je ne sais pas s'il savait qu'il jouait un peu avec les serpents. Mais quand même, après ce que le rapport Durham dit, Trump est parti de la Maison Blanche, on l'a chassé comme un voleur, comme un malpropre, alors qu'il était dans ses droits. Donc, il a aussi, s'est aussi vengé en prenant des documents pour dire, eh ben, on va voir, vous allez me couvrir derrière. Bon, c'est un petit jeu, en fait, enfantin, qui finit par prendre des proportions qui sont plus ou moins ridicules. Donc, a priori, d'après les experts qu'on rejette, moi, on en parle quand même. D'après les experts en matière juridique et dans ce cas de procédure, parce qu'il y a les presidential acts, et puis il y a toute la négociation entre donc le président et les archives en fin de mandat, qui se passe toujours bien. Je ne vois pas pourquoi avec M. Trump ça prend cette tournure-là. D'après eux, il ne devrait pas y avoir de procès avant l'élection 2024. Mais sait-on jamais. On va voir, on va écouter tout ça, on va suivre tout cela avec beaucoup d'intérêt. Donc, Trump est libre de faire campagne. Hein. Bon, on verra jusqu'au 14 août. Attendons déjà pour voir s'ils ne vont pas inventer autre chose. Ceci étant, on va terminer l'émission hein, par deux choses. D'abord, l'Église. Le pape a reconnu les LGBT et on ajoute plus persons. Bon, c'est-à-dire des gens qui pourraient se réclamer du troisième genre, je crois, ou de je ne sais pas quoi, ou être animal, ou être porc. Bon, on va leur accorder la tolérance religieuse, ou c'est le pape qui le dit. Et il y a eu déjà une église au Texas, je ne sais plus, je crois, qui a organisé, puis une école même, je crois, on fait des cours sur ça. Mais l'église a donc aussi organisé quelque chose, elle a reçu les LGBT, ce à quoi quand même l'ex-candidat aux élections présidentielles, Mike Huckabee, a dit jamais, jamais si le pape commence à reconnaître. Les LGBT plus, partout, tout ça, c'est contre les écrits bibliques, contre la Bible. Et donc là, pas sûr que les catholiques vont le suivre dans cette voie-là. Et donc on s'oriente aussi là-bas vers quelque chose. C'est pas. Je laisse ça à ceux qui, aux exégètes de la Bible. Mais c'est. Les écrits sont. Enfin, les écrits. C'est clair que, enfin, laissons tomber cette histoire d'LGBT, moi ça me dépasse que l'Église aussi entre là-dedans, se met à reconnaître ce genre de choses, parce que ça remet en question le principe même de la création du monde, enfin de l'humanité, à partir d'un homme et d'une femme. Alors maintenant, entre tout ça et la procréation, qu'est-ce que ça devient? Il appelle ça les scriptures. Je ne sais pas comment dire ça en français. Mais maintenant, si on est, il faut être clair là-dessus. Si on est contre Jésus ou contre les scriptures ou pour, bon, on ne peut pas ajouter, rétracter comme on veut, surtout que la Bible est un livre qu'on dit sacré. Et si aujourd'hui on veut le désacraliser, on ne peut pas faire autrement en commençant par cette histoire des LGBT qui ressemble énormément à Sodome et Gomorre. Bon, il faut savoir. Mais ça, je laisse hein, aux spécialistes de la religion et de l'Église. Bon, sinon, vous avez vu, hein, nous sommes le 22. Je sais même plus comment ça passe vite, le 22 juin. Le président Macron a convoqué une réunion sur. Un nouveau pacte financier, je crois. Nouveau pacte financier à proposer au monde. J'ai même cru à un moment donné qu'on parlait des pactes financiers et sociaux, que ce sommet a lieu à Paris en ce moment, aujourd'hui et demain, pour soi-disant que les pays sous-développés n'aient plus à choisir entre la pauvreté, la lutte contre la pauvreté. Et puis celle pour le climat, toutes sortes de choses. Bon, en gros, c'est pour le développement. Voilà. Un développement plus équilibré. Car les inégalités sont ce qu'elles sont. On les découvre. Et que ce serait dû à. Comment on va dire, j'avais écrit ça dans le clonage institutionnel, au fait qu'il y a une inégalité dans les droits de tirage des nations auprès soit du FMI, auprès de la Banque mondiale, auprès de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc cette différence, ce différentiel, on va dire, fait que ben, les pauvres, les pays, les nations pauvres resteront pauvres. Et les nations riches continueront à s'enrichir. Bon, ces choses-là, on peut toujours les dire, alors on va apporter des correctifs. Mais moi, quand j'entends un nouveau pacte financier basé sur. Qui rechercherait ce qu'on appelle le développement durable, je rigole déjà parce que tout ce qui est développement durable est antinonyme du capitalisme qui règne, parce que le capitalisme, c'est les intérêts à court terme. Et comment vous pouvez aller vers un pacte financier régi par l'idéologie capitaliste et qui vise un développement durable, c'est déjà. Bon, ils trouveront. Hein. Alors on apporte les ONG, on réagit, les correctifs, des choses qu'on disait déjà du temps de Jacques Chirac. Si chaque nation riche accordait 0,7% de son PIB à l'aide au développement, ce ne serait pas cela. Mais Ah, il faudrait que je parle de clonage institutionnel parce que j'ai parlé de l'aide au développement, mais ça, on le sait déjà. François-Xavier Verchat va en parler. L'aide au développement, c'est une arnaque. Tout le monde le sait. Elle n'existe pas. Bon, et puis, continuer à réactiver des logiques qui ont prouvé leurs limites. Depuis Jacques Chirac, vous vous rendez compte, juste aujourd'hui, bah, c'est se foutre la gueule du monde. Ce sont des logiques qui sont dépassées. Bon, je ne vais pas commenter ce sommet-là, ça sera l'objet d'une autre émission, éventuellement, parce que moi, les choses de M. Macron, c'est beaucoup de propagande, et donc moi, j'y crois pas beaucoup. Donc, ce n'est pas vraiment la peine, je le souligne juste, peut-être quoi. Et donc, on arrive à Greta Thunberg, notre activiste sur le climat. Une jeune fille qui a 15 ans, en 2018, avait dit que depuis le 21 juin, c'est-à-dire depuis hier, 2023, si nous n'arrêtions pas d'utiliser les énergies fossiles, nous entrerons dans l'apocalypse, en fait. Bon, on n'a pas arrêté. Depuis hier, on n'est pas vraiment dans une situation apocalyptique au niveau du climat, même si je crois que c'est au Texas, hein. Il y a une tempête terrible qui s'est abattue sur la ville, sur une ville, je ne sais plus laquelle. Bon, on est là, on est vivant. La petite jeune, elle a été manipulée pour aggraver cette histoire de climat, mais elle y croit, elle est toujours dans les combats. La question du climat, parce que M. Macron a quand même lié le droit de tirage, vous savez, on avait dit pollueur-payeur, mais ça ne se passe pas comme ça. Et de toute façon, les nations pauvres polluent très peu, parce qu'elles ne sont pas développées, elles sont pas industrialisées. Donc, on ne voit pas trop comment ils peuvent lutter contre le climat. Et d'ailleurs, même l'impact global de ce qu'on appelle le dérèglement climatique, qui serait mondial. Peut-être qu'on le voit dans les tsunamis, je ne sais pas trop, ça c'est le problème de l'eau. Mais franchement, ici en Afrique, moi j'y suis, hein, je suis un peu en ce moment dans l'agriculture, donc dans l'environnement. C'est le déboisement au Cameroun, c'est le déboisement sauvage qui crée toutes ces choses-là. Bien sûr, on va dire qu'il y a des courants qui font ci, qui font ça, mais sans aller dans cette science hors sol. On peut déjà avoir une science du topos, c'est-à-dire, bah, on est là, qu'est-ce qu'on fait? On déboise sauvagement, les eaux tarissent, déjà il fait chaud, mais comment on fait? Et dans le même temps, on ne reboise pas, et dans le même temps, on ne s'occupe pas d'aménager les berges sur toutes les rivières. Il n'y a pas une politique ici. Au Cameroun, où moi je suis du moins, qui permettent de libérer, de dégager les cours d'eau, de construire les berges autour et de faire en sorte qu'on ait une photographie des rivières qu'on a, des bon, les fleuves, ça se voit, mais dans les villages, c'est surtout des rivières ou des grandes rivières, des grands cours d'eau, mais elles tarissent. Au jour le jour, et quand tout ça tarit et qu'il n'y a pas d'arbres, vous voulez faire quoi? C'est pas la peine même de commencer à parler. Donc, la question du développement, c'est vrai, on peut la lier à la dette. Bon, voilà les choses qui sont hallucinantes quand on parle du sous-développement et on continue à endetter les pays et ces pays-là prennent de l'argent. Tous les jours, moi je vois ici, on a obtenu ça, on a obtenu ci, ils sont rentrés dans des montages financiers toxiques, la crypto-monnaie et tout, un délire total. Ils vont faire des choses très compliquées, mais cet argent qu'ils prennent tous les jours pour la dette des nations, c'est de l'appauvrissement à long terme. Et pire, quand ils le prennent, ils ne le consacrent pas aux choses qui sont essentielles. En termes, si on veut dire des climats, le climat, oui, bah, ils consacrent, je sais pas, on fait des grands projets vides, creux, on vous annonce ça, vous comprenez même pas le début du comment, Et puis vous faites avec. Bon, le peuple est très, très sous-instruit et très éloigné de cela. Et puis, de toute façon, la démocratie aujourd'hui, ce n'est pas la tyrannie seulement aux États-Unis, c'est partout pareil. Dans ce sens que vous pouvez toujours parler, gloser, l'opposition n'existe plus. Elle n'a plus les moyens d'exister démocratiquement, donc elle est morte. Il lui faut de l'argent, elle n'en a pas. L'argent qui vient de là où on parle aujourd'hui à Paris, ça va encore au gouvernement. Ça n'arrive pas aux populations, ça n'arrive pas aux gens. Enfin, nous vivons dans cette époque-là. Et que vous dire, que vous dire? Ben, on va pas dire de prendre le mal en patience. Il faut vous battre. Hein. Il se met à pleuvoir d'ailleurs. Le climat. Mais c'est normal, c'est la saison. Il a fait très chaud ici en Afrique, au Cameroun. Et beaucoup d'agriculteurs n'ont pas eu cette année. C'est une année, une mauvaise année. Hein. Les récoltes ne sont pas au rendez-vous. Mais on va dire c'est le dérèglement climatique. Oui et non, c'est vrai que la saison pluvieuse a tardé à arriver. Et maintenant, elle est là, elle est abondante. Mais tout cela, c'est les météorologistes qui doivent regarder cela. Mais tout cela aussi, les agriculteurs ici sur place n'ont pas le matériel pour travailler. Il n'y a pas de l'eau pour arroser en permanence, hein, lorsqu'il y a sécheresse. Vous voulez parler de règlement climatique seulement? Ou alors d'approche pour traiter la pauvreté seulement par le pacte sur un nouveau capitalisme qui ne va pas suivre sur le terrain. Bon, amis de Radio Silence, moi je ne sais plus quoi dire, je vous dis ce que je peux dire. Hein. Donc nous avons survécu, ce n'est pas encore l'apocalypse. Et. Vous avez écouté Élise Mbock pour Radio Silence, Flash sur le monde, et je vous dis à bientôt.